Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Bon, on revient sur le sujet de l'itinérance. L'itinérance qui est pas seulement un problème urbain. On l'oublie quand même trop souvent. Et on se parle de l'ouverture d'un autre espace pour héberger des personnes en situation d'itinérance dans la ville de Val-d'Or. Stéphanie Quenelle est avec nous. C'est la directrice générale de l'organisme La Piaule. C'est à Val-d'Or. Madame Quenelle, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. J'ai envie de vous poser la question. Comment ça se passe par chez vous, là?
Ben là, ça va un peu mieux, je vous dirais, là, depuis hier, parce que effectivement, oui, on a ouvert un lieu de débordement. On vit quand même une situation où une itinérance bien présente à Val-d'Or, là, puis depuis les mesures, puis surtout depuis le couvre-feu, là, ben ça nous a amené un paquet de défis, je vous dirais, là, pour essayer de trouver des solutions pour s'assurer que nos gens sont au chaud et bien. Là.
Bon, évidemment, la question des personnes en situation d'itinérance fait beaucoup jaser cette semaine. Il s'est passé un incident malheureux à Montréal avec la mort de M. Raphaël Paul. Ça a donné lieu à toutes sortes de débats dans l'espace public. Puis tantôt, en point de presse, François Legault, il faisait référence à ces débats-là, répondait aux critiques qui visent l'approche de son gouvernement envers justement les personnes qui vivent dans la rue. Les critiques qui visent principalement, on va se dire, là, le couvre-feu. Et j'ai trouvé ça assez particulier. Il a dit que c'était pas le temps de se diviser, qu'il fallait travailler ensemble, donc que le couvre-feu finalement était là pour rester. Il a enchaîné en parlant du bon jugement de la police, que les policiers étaient là pour amener les itinérants dans des endroits chauds. Donc ça, c'est une chose. Donc je comprends qu'on persiste et signe. Vous, de votre côté, comment vous l'avez pris, la nouvelle de la mort de Raphaël André?
Ben, écoutez, c'est quelque chose de dur à entendre parce que on travaille à aider les gens, tu sais, à l'année, de voir que quelqu'un soit dans une toilette, probablement pour se cacher et tout ça, pour pas avoir des répercussions du couvre-feu, qui a un malaise, peu importe comment ça s'est passé, ben, c'est terrible mourir dans une toilette, sans dignité et tout ça, quand il y a un refuge à deux pas. De travailler ensemble, oui, je suis d'accord, mais travailler ensemble, ça veut dire aussi écouter les interlocuteurs qui militent puis qui expliquent que c'est pas simplement de trouver un endroit à chaleur qui va régler la situation pour les gens en situation d'itinérance qui ont à vivre avec le couvre-feu. Il y a beaucoup plus d'implications que ça. On a des gens là qui ont vécu des traumatismes importants parmi les gens qui viennent chez nous, des gens qui ont pu subir des agressions de groupe, des choses comme ça, qui sont pas capables de se retrouver dans un lieu d'hébergement en groupe, de dormir avec des gens à côté. On a des gens qui passent la nuit à l'extérieur, d'autres qui ont des problèmes de santé mentale, qui connaissent pas nécessairement les règlements, puis qui deviennent comme agressifs quand ils sont obligés à rester dans un lieu enfermé. Ça peut rappeler plusieurs choses. Et donc, habituellement, ces gens-là vont marcher, vont pas nécessairement se regrouper 15 ensemble pour défier toutes les mesures, mais vont peut-être marcher une partie de la soirée, la nuit. Donc, le couvre-feu, là, ça a des implications importantes pour ces gens-là. Oui, nous, à Val-d'Or, on a deux personnes le premier soir qui ont reçu des contraventions. On est allé voir le milieu policier pour essayer de comprendre. On a la chance d'être d'un petit milieu, de pouvoir se parler, d'essayer de comprendre.
Puis qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Ben écoutez, ils nous ont expliqué qu'il y avait un contexte à tout ça, puis qu'il y avait eu des interventions pour d'autres choses qui avaient été faites auprès de ces individus-là. Puis ça, on peut comprendre, mais reste que quand on regarde l'infraction, moi je l'ai vu, j'en ai une copie, et puis dessus c'est marqué, tu sais, loi sur la santé publique, elle n'a pas respecté le couvre-feu avec une amende de 1 550 $.
Donc on n'a pas le contexte dont vous parliez là.
Oui, ben on a un peu le contexte. Oui, il y a eu certaines situations peut-être d'agressivité, tout ça. Ouais. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, tu sais, on recule il y a 5 ans, là, on a vécu une situation, une crise à Val-d'Or. Il y a quand même.
Vous parlez de la crise avec la police.
Oui, il y a quand même une certaine méfiance qui puis là, je remets pas en jeu le travail de la police non plus, parce que on a quand même une belle collaboration, puis on a avancé là, depuis les dernières.
Juste pour qu'on puisse suivre, là, on fait référence évidemment à ce reportage d'enquête qui avait beaucoup fait jaser. On prétendait dans ce reportage-là qu'il y avait des policiers de la SQ qui avaient des comportements plus que problématiques avec des ressortissants des communautés autochtones. Donc, ce que ça donne au final, c'est que les gens qui sont des ressortissants des communautés autochtones, et là, je sais pas si les personnes qui ont été interpellées et qui ont eu des contraventions sont des autochtones, mais il y a une certaine méfiance, c'est ce que vous me dites.
Oui, oui. Puis même si les gens font le travail mieux et tout ça, il y a une méfiance qui va de mieux en mieux et qui travaille présentement, mais il y a quand même des contre-coups pour ces deux personnes-là qui, oui, étaient deux personnes autochtones. Donc pour nous, tu sais, c'est dire aussi comment ces personnes-là vont payer. Tu sais, je veux dire, les gens ramassent des canettes pour
ils ont pas d'argent.
Le 1 550 $ là, ultimement, ça mène s'il y a un non-paiement, un emprisonnement, ce qui est complètement un non-sens à notre.
Mais c'est comme si on les met encore plus à part qu'ils sont déjà en les stigmatisant davantage. Puis j'ai envie de vous demander, Madame Kennel, parce qu'ici, bon, évidemment, les personnes autochtones sont surreprésentées dans la population qui vit en situation d'itinérance. Est-ce que c'est la même chose chez vous à Val-d'Or?
Oui, ben écoutez, si je regarde nos statistiques l'année passée, notre hébergement d'urgence, c'est à 60% des personnes autochtones qui le fréquentent. Donc oui, il y a une forte proportion. Tu sais, on vit dans un milieu, dans une petite communauté, mais qui est entourée aussi de communautés autochtones diverses. Mm-hmm. On reçoit beaucoup de gens au niveau des qui viennent du Nord pour recevoir aussi des soins de santé, donc qui sont momentanément chez nous, puis qui des fois ne réussissent pas à retourner chez eux, puis qui se retrouvent dans un contexte d'itinérance aussi. Donc, oui, ça amène une réalité autre.
Puis, là, j'imagine que le type d'itinérance est assez différent. Puis là, c'est peut-être, si j'ai des préjugés, là, merci de me le souligner, corrigez-moi, mais est-ce que vous êtes la seule ressource? Parce que j'imagine que c'est pas, par exemple, comme dans une grande ville où on a plusieurs organismes communautaires, des refuges.
Oui, tout à fait. Oui, on est, ben, dans notre municipalité, on est la seule ressource qui reçoit les gens en situation d'itinérance. Il y en a d'autres en région, mais à plusieurs kilomètres. C'est là où des fois aussi, justement, là, c'est un peu problématique parce que s'il y a des gens qui sont en conflit ou des gens où, par exemple, il y a une situation d'agression puis que les deux personnes vivent à la rue, l'agressé et l'agresseur, ben souvent, s'ils veulent aller dans un lieu d'hébergement, il y en a juste un, ils se retrouvent ensemble. Ça peut créer des situations inconfortables aussi qui fait que des fois, certaines personnes ne viennent pas dans notre refuge non plus. Donc le fait qu'on ait ouvert aussi aujourd'hui, là, c'est très temporal. On a ouvert un deuxième site de débordement dans le sous-sol d'une église avec la collaboration de nos partenaires là, du centre de santé, avec les gens du milieu policier. On a un poste de police mixte autochtone qui est impliqué aussi, avec les gens du centre d'amitié autochtone. Ouais. Essayer de trouver une solution qui est temporaire, par contre, il faut le dire, mais qui vient nous aider beaucoup parce qu'on vivait un débordement. Là, tu sais, c'est plus de 45 personnes qui venaient coucher chez nous.
Mais ce débordement-là, Mme Kennel, pardonnez-moi, est-ce que c'est nouveau ou ça a toujours été en augmentation? Est-ce que vous avez l'impression que la COVID a un petit peu fait péricliter la situation?
Oui, je dirais qu'il y a une augmentation. C'est sûr que c'est toujours un temps occupé, le temps de l'hiver. Il fait quand même froid ici aussi, donc il y a toujours plus de gens. Mais de voir ça déjà au début du mois de janvier, on voyait là, une grande augmentation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos lieux physiques aussi ne sont pas adaptés aux mesures sanitaires à la base. Donc, il a fallu tout repenser nos espaces. On a des gens qui dormaient dans les salles à manger, dans les couloirs, dans les bureaux pour respecter la distanciation de 2 mètres.
Ouais. Puis, il faut parler de dignité aussi à un moment donné. Là.
Pardon?
Il faut parler de dignité aussi à un moment donné. Là, accorder tout le monde comme ça, ils sont déjà dans des situations difficiles.
Tout à fait. C'est pas évident pour eux. Puis c'est pas évident pour le personnel non plus. Tu sais, je veux dire, si on a un couvre-feu, on a des gens qui, des fois, par exemple, sont agressés puis iraient prendre une marche, seraient à l'extérieur. Là, tout le monde se retrouve en dedans. Donc, il y a plus de pression à gérer, plus de conflits. Donc, ça pèse beaucoup sur nos intervenants aussi puis sur nos accueillants. Donc, c'est un cycle qui fait que on se dit, ben, à un moment donné, il fallait trouver un autre lieu pour permettre et à l'équipe et à nos gens de pouvoir respirer un peu, avoir de l'espace, une bulle un peu plus grande pour se reposer là, à la chaleur. Puis
je comprends. En terminant, Mme Kennel, tantôt au point de presse, le premier ministre est revenu sur le fait qu'il était très sensible à la situation des personnes en situation d'itinérance, qu'il avait créé des places, des refuges, qu'il allait avoir d'autres annonces aussi faites en ce sens aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous oublie? Hein, les personnes qui travaillent dans le milieu de l'itinérance en région, est-ce que vous avez assez de ressources pour les aider, vos gens?
Bien, je dirais qu'il nous oublie pas nécessairement, mais peut-être que des fois, qu'il comprend pas nécessairement la complexité des situations pour qu'il y ait la bonne chose qui soit mise en place. Il y a des choses où, tu sais, c'est pas nécessairement une ressource, mais c'est pas nécessairement des fois des sous, bien qu'on en ait vraiment besoin puis qu'on soit toujours, on ait de la difficulté à survivre. Mais des fois, c'est de prendre des décisions comme celle de changer un décret pour qu'il y ait...
Ça serait ça pour vous, la chose à faire, Mme Kennel?
Ben, en ce moment, on pense que oui. On espère qu'il n'y aura pas d'autres contraventions. On va accompagner nos gens aussi. Puis, c'est important de dire qu'on comprend les mesures sanitaires et qu'on veut aussi protéger nos gens là, du virus qui... Parfois, là, on a beaucoup de diabète, nous, parmi nos membres, de gens qui auraient des complications si il y a le virus. Mais on peut le faire pas nécessairement par la répression, mais peut-être par d'autres moyens qui sont plus efficaces. Là.
Merci, Stéphanie Kennel, qui est directrice générale de l'organisme La Piaule, c'est à Val-d'Or. L'organisme qui ouvrait un deuxième espace d'hébergement dans le sol d'une église pour suffire à la demande des personnes en situation d'itinérance.